Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orech Yamim Tovim Veshanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude de Parashat Vaigash. Nous sommes au chapitre 46, verset 28. Ve'et Yehuda shalach lefana vel Yosef. Il dit que Yaakov a envoyé Yehuda en éclaireur devant lui, vers Yosef, à Yosef. Les Orot lefana. Donc, les Orot signifie préparer. Donc, Yehuda doit indiquer à Yosef tout ce qu'il faut préparer pour recevoir la famille qui arrive. Voyez-vous Arza Goshen, et ils sont arrivés au pays de Goshen. Donc le mot Léorot, le sens simple, signifie la préparation. Les maisons, la synagogue, le mikvé, etc. Tous les besoins individuels et collectifs. Les Chachamim, Rashi ramène les Orot, les Fanav, donc il donne la première explication, les Fanot l'Omakom, lui préparer un lieu où il pourra s'installer. Ou le Orot, Er, il t'y achève bas, comment il va s'y installer, les détails de l'installation. Et deuxième, les Fanav, qu'est-ce que ça veut dire, il l'a envoyé devant lui. Avant qu'il arrive, avant que Yaakov y arrive. Donc il faut que tout soit préparé pour que lorsque Yaakov arrive, il puisse s'installer directement. Et Rashi rapporte Midrash Agada, Léorot Lefanav, Letaken Lobet Talmud, lui préparer un lieu d'étude. Chez Misham Tetse Oraa, Léorot fait référence à l'enseignement qui est transmis clair, la halakha claire qui est transmise de manière que l'on sache quoi, comment et appliquer les mitzvot. Les orot, c'est l'enseignement transmis. En vérité, il lui a dit, prépare-moi un bêta midrash. La question elle est, pourquoi est-il besoin, quel besoin Yaakov a d'envoyer Yehuda pour préparer cela, alors que Yosef aurait pu le faire de lui-même? Est-ce que Yosef ne sait pas combien, on a cité le nombre de familles, on sait combien de personnes il y a, Yosef est au fait qu'il faut préparer un bétamidrash, une synagogue, un mikvé, un lieu pour l'abattoir, l'abattage rituel, etc. Il sait ça, il sait que toutes les conditions nécessaires qu'il faut pour qu'une communauté s'installe. Alors, quel besoin y a-t-il que ce soit Yehuda qui aille à la rencontre de Yosef pour... Donc, à deux, ils vont le faire. Alors, ici, il y a une notion de Beta Midrash. Qu'est-ce que c'est le Beta Midrash? Qu'est-ce que c'est la synagogue? Il y a la rue, il y a la synagogue. Dans la rue est qualifiée de Rshut Arabim, le lieu où le public, la foule, c'est le lieu, le domaine de la foule. Et dans la foule, quand il y a une multitude de gens, les gens dans la rue, chacun va qu'à ses occupations. En fait, rien n'unit les gens. On n'est pas le lieu où on se sent le plus isolé, c'est la rue où il y a la foule. La foule, parce que chacun va à ses préoccupations. Il n'y a rien qui unit les gens dans la rue. Chacun a sa vie, chacun suit son chemin. Chacun a ses ambitions. Le lieu du rabbim. Et c'est-à-dire, il n'y a rien qui unit les gens. Donc, c'est le piroud. On peut avoir une foule énorme et on est isolé au milieu de la foule. Et c'est le piroud. Il n'y a rien qui unit les individus. C'est la diversité, la division entre les individus. Il n'y a rien qui les unit. Quand on construit un yishuv yahid, le Rshut Hayahid, c'est le lieu unique, ou bien le lieu de l'unique, du un. C'est la place, on va construire un lieu, on va établir un lieu, où les gens, quand ils y pénètrent, ils sont unis, ils sont unis par la présence de Dieu. Le Rshut Hayahid est le domaine consacré à Dieu. Il faut 4 sur 4 dans les Ilkhot Shabbat, 4 sur 4, une surface de 4 sur 4, c'est une hauteur de 10. À quoi ça correspond? Les 4 murs la surface, c'est les quatre lettres du nom de Dieu, Yodke Vavke. Et la hauteur, c'est quand ce nom-là se remplit. Donc, quand on remplit le nom de Dieu, Yod, il y a trois lettres. Yod, Vav, Dalet. Le He, c'est He, Yod. Le Vav, c'est Vav, Alef, Vav, Vav, Yod, Vav. Et le He, c'est He, Yod. Donc, il y a 10 lettres. C'est les... Donc, c'est, en vérité, c'est le lieu qui... Et les individus, quand ils pénètrent dans ce lieu, ils sont unis par l'intention. Pourquoi rentrent-ils au Beit HaMidrash, à la synagogue? C'est ça, c'est le lieu qui les unit, parce qu'ils ont une même intention. Et quelle est cette intention-là? C'est l'intention de s'unir pour faire la prière, pour l'étude, etc. Donc c'est un lieu, l'intention, la volonté des individus fait que ce lieu-là est consacré à Dieu. Donc c'est, ils sont unis, les individus sont unis les uns aux autres par la présence de Dieu, par la pratique qu'ils vont, par l'action qu'ils vont accomplir, et par le fait que leur unité amène la présence de Dieu. Donc c'est ça ce que Yehuda, et ce concept-là, il est à l'opposé de la rue. Et ce concept-là, c'est le concept du malchut. Donc les individus, quand ils rentrent dans le Beit HaMidrash, chacun y amène ses énergies, remplit le Beit HaMidrash d'énergie. Et c'est la conjugaison, le fait que chacun y déverse ses énergies. Alors chacun, ou bien on vient, on fait la prière. Alors chacun vient et investit, et insuffle ses énergies dans la prière. Mais la prière, elle est collective. Les gens, ils sont unis dans cette prière. À partir du moment où nous sommes 10 dans le Beit HaMidrash, nous avons une union. Il n'y a plus d'individus. C'est un klal, c'est un groupe. C'est une nation, c'est la nation qui est formée, un ensemble qui est formé. Et dans l'ensemble, la Shekhinah réside. C'est ça la notion du Malchut. Et c'est pour ça que Yaakov, qui est le Tiferet, envoie Yehuda vers Yosef. Et Yosef, qui est-il? Il était le Yesod. C'est lui le fondement qui permet aux énergies de se déverser dans le Beit HaMidrash. Ça, c'est là, on va dire, il les relie. Il permet, Yaakov suscite l'union de Yehuda et de Yosef, afin qu'ils comprennent l'un et l'autre, qu'ils sont indissociables, que l'un ne peut exister sans l'autre. Si Yosef disparaît, Yehuda, il est perdu. Et si Yehuda n'existe pas, Yosef n'a pas à qui transmettre quoi que ce soit. Donc c'est l'union des deux, c'est la unir les deux, les conjuguer les énergies de sorte que les orotes, ça veut dire que la lumière jaillisse de ce lieu-là. La lumière étant les énergies innovées, renouvelées. Après il est dit, Goshen fait référence. Et certains rabbins expliquent que le mot Goshen fait référence à Vaïgash. Vaïgash, c'est-à-dire qu'il s'est avancé vers lui, il s'est uni à lui. Vaïgash est là, Yehuda s'est avancé, et en s'avançant vers Yosef, il s'unit à lui. Il se lie à lui. Et c'est ça, le pays de Goshen fait référence à cette union où, à la différence du monde égyptien, le mot de Goshen est un lieu où l'union de Am Israël peut se faire. Comme nous allons le voir plus tard. Après, il est dit, Vayesor Yosef Merkavto, Vaya Alikrat Israël Aviv, Goshna. Donc, Yosef, il a préparé son char, il a attelé son char. Le char fait référence, justement. Le char, c'est la Merkava. La Merkava, c'est le Malchut. Donc il s'est à lui qui est le Esod, il s'est attaché à cette Merkava. Et il monte vers son père. Donc c'est Yosef qui unit le Malchut, qui s'attache au Malchut et qui va vers le Tiferet. Et là tout le système est restructuré, entièrement établi. Toute la structure du système de la Kedusha est formée totalement, est établie, est épanouie. Goshna, Vayera est là, il se montre à lui. C'est Yosef qui se montre, parce qu'il est dit que Yaakov, il descend en Égypte pour voir Yosef, pour le voir comment dans sa plénitude,
dans son épanouissement, dans sa véritable dimension, dans sa véritable, dans son état véritable. C'est ce qu'il dit. Oh, Yosef ben Yichai. Chai, c'est le Yesod. Voyez, Paul al Tzavarav. Tzavarav fait référence au temple. Nous dit le Zohar. Comme on voit que Yosef, il a pleuré sur les épaules de Binyamin, sur le temple. Voyez, qu'al Tzavarav, il a pleuré sur ses épaules, sur les deux temples. Tzavarav est un pluriel. Oh, et en plus, il y a marqué encore. Le Nil Zohar, c'est référence à l'exil long, le quatrième exil, qui est long. Donc, il pleure. Alors, pourquoi? Parce que Dieu, quand le temple se détruit, c'est la dislocation du système. Quand la galoute, quand les ministres partent en galoute, c'est aussi, ça indique la dislocation du système. Le système est disloqué, les éléments, ils sont disparates, ils sont plus imbriqués les uns aux autres. Et c'est sur ça que Yosef pleure, parce que c'est quelque part de sa responsabilité. Si les frères l'ont vendu, si le père a souffert, si ce qui va se passer, donc la destruction des temples, l'exil, etc., c'est de son fait, quelque part. Cependant, il est dit, voyons, Mère Israël et Yosef, amutapam, à présent, je peux mourir. Après que Ahare Reoti et Panicha qui Odechachai, je peux mourir parce que je t'ai vu qui tu es encore vivant. Donc ça veut dire que même si Yosef a pleuré sur la destruction future, mais Yaakov sait que cette destruction, elle n'est que temporaire. À partir du moment où Yosef il a établi la structure du Yesod, qu'il est lui-même la continuité de la Midda de Yaakov. Il est possible à tout moment de rétablir les choses, de faire en sorte que la malchoute se reconstruise à tout moment. Il y a un potentiel. Ce n'est plus la destruction des temples, la galoute n'est plus définitive. Elle est temporaire. Donc et ça, il dit le travail peut se faire sans moi. Donc c'est ça ce qu'il est dit ici. Donc c'est ça qu'il dit Amuta Aparam, il peut se retirer. Il est capable, c'est-à-dire que Yaakov voit que le système est établi et que il a fait sa mission en fait. Il peut aller, la mort n'étant pas la fin, c'est le début d'autre chose. Alors c'est ce qui est marqué ici. Vayomer Yosef el Ahav el Bet Aviv. Et alors, après, Yosef, il dit, je vais prendre des membres de la famille, je vais aller les montrer ou les présenter à Pharaon. Alors, il présente 5 de ses frères et il leur dit, il faut dire que vous êtes des bergers, qui to'avat mitzraim kolro et ça, parce que les Égyptiens ont en détestation ceux qui s'occupent des troupeaux de menu bétail. Rachid dit pourquoi? Parce que c'est leur dieu. Ils adorent, ils sont en adoration devant le menu bétail. Alors que les Bnei Israël, eux, ils ont des troupeaux, ils sont des éleveurs parce qu'ils mangent justement le menu bétail. À l'inverse des Égyptiens. Il y a dans ça un secret intéressant que à l'occasion, on discutera de cette Nekuda du Hegel. Qu'est-ce que c'est un Hegel? À quoi correspond le menu du bétail? Après ça, il est dit que, il y a marqué, Vayomer el Parao. Après, il est dit, Vayave Yosef et Yaakov avi, Vayamideu lifne Paro. Vayivarech Yaakov et Paro. Donc, Yaakov, après que Yosef a présenté 5 de ses frères à Pharaon, première entrevue, il y a une deuxième entrevue. Cette deuxième entrevue avec Pharaon, il présente son père, Yaakov Aviv, il le présente à Pharaon. Et là, Vayivarech Yaakov et Paro, Yaakov, salut Pharaon. Rachid dit qu'il s'agit d'un salut. La bénédiction égyptienne, c'est le salut. Et là, qu'est-ce qu'est-il dit? Vayomer Paro à Yaakov.
Pharaon dit à Yaakov, Kamaï, quel âge as-tu? Combien Kamaïe, me chene haïra? Combien de jours, d'années est composée ta vie? Quel âge tu as? Et à ce moment-là, Yaakov répond, voyons-moi Yaakov et Paro, yeme chene gmigoura, les jours, les années de mes tribulations sont de 130 ans. Et sont courtes et mauvaises, dures. Ayou yeme chene haya, et velo isigo, ils sont pas arrivés à la vie de la vie de mes ancêtres. Et à ce sujet-là, donc ça veut dire que ici Yaakov dit quelque chose d'étonnant. Il dit ils sont pas arrivés à la vie de mes ancêtres. C'est-à-dire il sait qu'il a vécu 180 ans. Alors lui il est pas arrivé, il a 130. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être qu'il va. Il a que 130. Il peut arriver peut-être jusqu'à 170, 180. Ici il est certain que Yaakov il dit je n'arriverai pas je n'aurai pas la longévité de mon père. Et le Midrash dit ici que on reproche à Yaakov, à Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est ainsi que tu parles, tu t'adresses à Pharaon et lui dis que ta vie a été dure, que ta vie a été courte, que ta vie a été pleine de souffrances, alors que je t'ai sauvé de la vanne, je t'ai préservé de Esav. Tu as souffert avec Dina, mais je te l'ai rapporté, je te l'ai ramené. Et Yosef, tu as souffert, certes, il t'a été arraché, mais voilà, tu le vois. Alors, tu aurais dû dire que, employer d'autres termes. Donc, si c'est comme ça, alors, les mots que tu as dit, pour chaque mot, tu auras un an en moins. Alors, quel âge il a ici? Il a 130 ans. Et combien va-t-il vivre? Il va vivre 17 ans en Égypte, donc ça fait 147 ans. Yitzhak a vécu 180 ans, donc il lui manque 33 ans. Alors quand on compte les mots qui sont inscrits depuis Vayo, Pasuk 8, où il y a marqué Vayo mer paro el Yosef, kama yeme shene hayecha. Donc il y a ici 8 mots. La question de Pharaon, combien de jours, quel âge as-tu? Il y a 8 mots. Et la réponse au verset 9, il y a marqué Vayomer Yaakov el Paro, il y a 25 mots. Donc en tout, ça fait 33 mots. Les 33 mots de la question et réponse, du fait que Yaakov s'est un peu plaint de sa souffrance, il n'a pas été reconnaissant envers Dieu, donc ils lui ont été retranchés. La question qui se pose, c'est, bon, on pourrait comprendre que la réponse de Yaakov, alors il a employé des mots quelque peu mal adaptés, inadaptés, peu de reconnaissance envers Dieu, alors il a été sanctionné. Mais pourquoi l'avoir sanctionné de la question des mots que Pharaon emploie quand il pose sa question? Et à cela, il dit que Yaakov, pourquoi Pharaon l'interroge? Parce qu'il est étonné de l'aspect de ce monsieur. Et on voit que ce bonhomme-là, il est impacté par la souffrance. La dureté, les épreuves qu'il a dû subir se lient sur son visage. Il paraît très, très vieux. Et c'est ça qu'on reproche. Comment Yaakov, qui portait en lui les épreuves, les multiples épreuves difficiles et douloureuses ont laissé une trace sur son corps, sur son visage. Il a pris de l'âge. Et ça, on lui reproche. Il fallait pas qu'il laisse transpirer ou transparaître sur son visage, sur son aspect, les épreuves, de sorte que Pharaon ne l'interroge pas. Et ça, c'est très difficile. Ça indique ce que nous avons dit plus haut, que Yaakov, à deux reprises, il va dire, ah, cette fois-ci, je peux mourir. Il dit, ah, Yosef ben Yahai, erda verenu beterem mamut. Je le vois avant de mourir. Et après, quand il a vu, il a dit, ah, mais à présent, je peux mourir. Comme si que Yaakov est
fatigué de il n'a plus d'ambition, il n'a plus d'énergie pour aller de l'avant. Et le fait que, bien qu'il ait retrouvé son inspiration divine, toutefois, ça ne lui donne pas suffisamment d'énergie pour effacer les traces qu'ont laissées les épreuves. Et ça, c'est ça ce qu'on lui reproche. C'est ce que le Midrash lui reproche. Alors, il y a une question qui se pose. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu remplit les jours et les années des justes. Akadosh Baruch Hu remplit les années des justes. Donc, est-ce que Behemet, Yaakov, il aurait pu vivre 180 ans? Alors, il dit qu'il a vécu 180 ans. Mais ce que Yaakov, il a fait en peu d'années, en moins d'années, il a fait peut-être ce que Yitzhak n'a pas fait en 180 ans. Donc il a construit la maison d'Israël à travers les différentes épreuves et les souffrances qu'il a dû surmonter. Donc la Gemara elle raconte que Rabbi Boun, à 29 ans je pense, dans l'Yerushalmi, il a fait ce qu'un autre homme aurait fait en plusieurs dizaines d'années, alors qu'il était jeune. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui remplissent une fonction en peu d'années, ce que d'autres auraient fait ou n'arrivent pas à faire en 100 ans. On dit que le Rama Kemipano, le Rama Cordobero, il a vécu 48 ans. Et en 48 ans, il a écrit une multitude de livres énormes, des livres encyclopédiques énormes, des milliers de feuillets. Quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il n'a vécu que 48 ans. Alors, c'est étonnant. Donc, il a rempli en quelques années un travail que pour d'autres, il aurait fallu deux vies. Donc, il a fait son travail. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors, on veut nous enseigner, les maîtres veulent nous enseigner qu'un homme, il doit être toujours la vie. Même, il n'y a pas de retraite, en fait. C'est-à-dire, même s'il est âgé, même s'il a un passif, il a souffert, il a surmonté des épreuves, il doit être toujours, la vie se rallonge en fonction de la volonté de l'homme d'aller de l'avant. Et tant que l'homme veut aller de l'avant, alors quand Akadosh Baruch Hu lui octroie, on voit que par exemple Eliyahu HaNavi ou le prophète Yonah, ils ont dit à Dieu, enlève-nous de ce monde. Donc ils se sont trouvés dans une situation où il n'y avait plus avec qui parler, ils ne trouvaient plus à qui transmettre, où ils se trouvaient déconnectés de leur environnement. Alors ils ont quitté ce monde, Akadosh Baruch Hu les a retirés de ce monde. C'est un peu ça ce qui arrive à Yaakov, alors que on peut voir dans l'histoire que le Maharal de Prague lui-même, il a été nommé rabbin de Prague alors qu'il avait 85 ans. Alors, à cet âge-là, est-ce qu'il viendrait à l'idée de nommer un monsieur d'un tel âge à une fonction aussi importante? Eh ben oui. Et alors ça veut dire que ce monsieur-là, il avait une ambition, il avait quoi dire, il était alerte, il devait s'occuper d'une grande communauté comme ça. Et il s'en est occupé pendant plus de 10 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge en fait. Si on a la volonté, on a de l'ambition, on a quoi dire, on a quoi faire, alors Akadosh Baruch Hu rallonge la vie. Et c'est ce qui est marqué dans le Zohar à ce sujet, très intéressant. Parashat Vayechi, il est rapporté qu'un jour, Rabbi Yitzhak est venu voir Rabbi Yehuda, son compagnon d'études. Et il lui a dit un matin, voilà, je te demande trois choses. Pendant les 7 jours de deuil, tu viens sur ma tombe et tu dis du vrai Torah. J'ai un enfant petit, tu t'occupes de lui pour l'éduquer. Et chaque fois que tu diras un Dvar Torah en mon nom, cite mon nom. Si c'est un enseignement que nous avons innové ensemble, cite mon nom. Alors, Rabbi Yehuda a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, il a dit, voilà, chaque fois que je fais la prière dans Shomea Tefila, quand j'arrive à Shomea Tefila, j'observe le mur et je vois mon tselem, je vois mon ombre, je m'aperçois
mon reflet sur le mur. Et aujourd'hui, j'ai vu que j'avais pas de reflet. Donc, ça signifie que si le reflet a disparu, que c'est la fin est proche. Alors, il va chez pour annoncer ça à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il le voit arriver. Il voit derrière lui le Malach HaMavet qui lui court après. Donc, il fait rentrer Rabbi Yitzhak dans le Beit HaMidrash et il dit que celui qui a l'habitude de rentrer rentre. Celui qui n'a pas l'habitude de rentrer, il reste dehors. Donc, le Malach HaMavet, il reste dehors. Alors, il le fait asseoir. Il lui dit, est-ce que tu as vu dans le rêve que ton père vient à ta rencontre? Il lui dit, non, j'ai pas vu. Il dit, tant que ton père, tu as pas vu ton père venir à ta rencontre, ça signifie que on peut faire quelque chose. Donc, il implore. Le Zohar dit qu'il implore à Kadosh Baruch Hu d'accorder une rallonge à Rabbi Yitzhak. Il dit, il est un de nos chavrayas, il est un de nos compagnons qui nous étudions ensemble. Rabbi Shimon, il y avait 7 compagnons d'études. Donc, chacun avait une position telle qu'il était indispensable. Donc, il a dit, on a besoin de toi, on a besoin de lui. Et Akadosh Baruch Hu lui accorde cela. D'ailleurs, le jour de la Hydra, dans la Hydra, le jour où Rabbi Shimon doit quitter le monde, il prépare ses élèves. Et il invite un des élèves, il dit, va dire à Rabbi Yitzhak de se préparer, de régler ses affaires, d'informer sa famille, ses enfants, qu'il va quitter le monde aujourd'hui. Et Rabbi Yitzhak vient et quitte le monde avec Rabbi Shimon. On voit qu'en vérité, la vie, elle peut être allongée, nous dit le Zohar. Cette vie-là, elle peut être allongée. Pourquoi? Parce que si il y a une nécessité d'avoir ce personnage-là sur Terre. Les autres ont besoin de lui. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va lui rallonger la vie. Mais il est dit aussi au sujet de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu l'a pris, Be'etzem Hayom Hazeh, au milieu de la journée. Comme pour nous dire que les peuples d'Israël ne pouvaient pas empêcher Moshe de quitter ce monde. C'est-à-dire qu'en vérité, ils auraient pu. Mais Dieu a voulu leur montrer qu'ils ne pouvaient pas. C'est-à-dire que pour un autre, on pourrait. C'est à partir du moment où le maître est indispensable aux élèves. Alors, a priori, les élèves peuvent dire, nous, maître, nous avons besoin de lui, Rebbeinu Shalom, rallonge-lui la vie. C'est ce que a fait Rabbi Shimon Bar Yochai pour Rabbi Yitzhak dans cette histoire-là. Et là, nous voyons que Yaakov arrive, est fatigué. Sa démarche ressemble un peu à celle de Eliyahu HaNavi. Et c'est pour ça que ces jours n'atteindront pas les jours de Yitzhak. Ça, c'est la leçon qu'on veut nous donner. Mais la vraie idée, c'est que ce que Yaakov Avinu a réussi à obtenir, c'est réel, c'est-à-dire c'est établi de manière définitive. Rien ne manque. Il a rempli sa véritable mission. Et Akadosh Baruch Hu, véritablement, il remplit le jour des Yemei Tzadikim. Akadosh Baruch Hu memale shinotehem, yemeihem veshinotehem shel tzadikim. Yehi ratzon que Akadosh Baruch Hu nous accorde à chacun une longue vie. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.